Demain, c'est la fin de la trêve hivernale. Les expulsions des locataires sont de nouveau possibles. Et qui a dit que nous n'avions pas un gouvernement social? Maintenant, tout est clair, la même date fatidique vaut pour toute la France, demain 31 mars.
Le nouveau est dans le passé, ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
Locataire et propriétaire.
Madame, je dois vous faire une confession navrante. Je suis sans le sou.
Je crois comprendre de quoi il s'agit.
Le défaut d'argent, vous le savez, amène souvent une situation tendue entre propriétaire et locataire.
Indubitablement.
C'est une histoire bien française qu'on ne retrouverait pas ailleurs dans les mêmes formes. D'un côté, priorité a été donnée à la propriété. Après la Révolution et dans le premier 19e siècle, la citoyenneté lui était liée. Ensuite, après l'accès de tous au suffrage universel, nombre de gouvernants ont vu dans l'accession progressive des citoyens modestes à la propriété un gage de stabilité sociale. Car, d'un autre côté, même si les locataires ne se sont organisés que tardivement, leurs motifs de mécontentement ne peuvent pas ne pas être pris en compte. Par exemple, pendant les guerres, comment exiger des combattants ou de leurs épouses ou de leurs veuves le paiement strict des termes? Les moratoires accumulés pendant cette période et les imbroglios qu'ils provoquent expliquent ainsi largement l'échafaudage de la fameuse loi de 1948. En fait, dès le milieu du 19e siècle, l'État a dû arbitrer de plus en plus au nom de la santé, par exemple avec la surveillance des garnis. Les propriétaires ont hurlé, la venue des inspecteurs dans nos immeubles, c'est l'entrée du socialisme. Puis, l'État est intervenu encore plus directement. La loi qui lui permet d'être partie prenante dans la construction d'habitations à bon marché date de 1912. Nous allons raconter l'histoire d'un ménage à trois, les locataires, les propriétaires et l'État.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Daniel Vollmann, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui publie un livre fort intéressant aux éditions Payot, Locataires et propriétaires. Un livre, nous on va utiliser, vous savez, nos sources habituelles que vous connaissez, les comédies de mœurs. Vous, vous utilisez des sources beaucoup plus sérieuses et austères, et auxquelles on ne pense pas toujours, des sources judiciaires et notamment la justice de paix.
La justice de paix qui n'existait pas avant la Révolution française. Donc c'est à la Révolution française qu'on a instauré une justice qu'on appelait de proximité, un juge de paix qui était recruté parmi les notables du coin et qui était là pour arbitrer les différends entre la population. Et un des différends très importants à cette époque, à la fin du XVIIIe siècle, et ça a continué jusqu'à nos jours, c'était un différend entre les propriétaires et leurs locataires. Donc ils allaient devant le juge de paix pour essayer de résoudre leurs différends, en particulier le paiement du loyer.
La justice de paix existe depuis 1790, et c'est l'époque où la propriété est proclamée comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en passe pas par un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tout le premier 19e siècle est fondé sur l'assomption du propriétaire. On peut être électeur si on a des propriétés suffisantes qui justifient la qualité d'électeur pendant la monarchie constitutionnelle.
Et c'est pourquoi cette affaire des relations entre les propriétaires et les locataires, d'une certaine façon, c'est une affaire proprement française. Ça ne veut pas dire que dans les autres pays, on n'a pas les mêmes rapports entre propriétaires et locataires. Mais en France, la Révolution française, qui est un des fondements des République, de la nôtre comme celle du passé, la propriété est constitutionnelle. La propriété est un droit inviolable et sacré. Donc, les propriétaires ont tous les droits, d'après la Constitution.
Enfin, ils sont inquiets en même temps. Ils sont inquiets, ils ont des raisons d'être inquiets.
Tocqueville,
juste avant l'instauration du suffrage universel, dit « Méfiez-vous, demain, le champ de bataille, ce sera la propriété. »
La propriété.
Ouais. Alors, les propriétaires sont de plus en plus nombreux et accordent de plus en plus d'importance après la propriété foncière à la propriété immobilière, parce que dans le premier 19e siècle, bien avant Haussmann, les villes se transforment, se modernisent. et se créent par exemple des immeubles de rapport. Votre livre a l'avantage de nous rappeler, on va le faire à jet continu dans cette émission, quelques notions de vocabulaire peut-être un peu oubliées. Immeuble de rapport.
Un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui rapporte. Et qu'est-ce que c'est qu'un immeuble qui rapporte ? C'est un immeuble dont tout ou partie est loué à un ou des locataires et donc rapporte à son propriétaire une rente qu'on appelle la rente locative. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'immeuble de rapport avant la Révolution, mais disons avant le 19e siècle, mais avec le développement urbain, avec le développement des villes, on en construit de plus en plus parce que ça rapporte de plus en plus puisqu'il y a plus de personnes à loger.
Nous sommes en 1882 dans un immeuble de rapport de l'époque d'Haussmann que peint Peau Bouille de Zola. Il y a au deuxième étage un locataire qui est écrivain et qui note tout ce qui se passe dans les escaliers. Par exemple, l'arrivée du jeune Octave Mouret, qui sera plus tard le héros dans la suite des Rougon-Macquart, d'Au bonheur des dames.
Quand on chauffe les escaliers,
les propriétaires qui se respectent. Mais aussi l'immeuble est supérieurement fréquenté. Eau et gaz à tous les étages, qu'est-ce que vous croyez? Rien que des gens bien, ça n'est pas rien ici. Vous avez le fils du propriétaire, Monsieur Vabre, Auguste Vabre. Le magasin de soierie que vous avez vu en bas, c'est à lui. Le second fils, Monsieur Théophile, il a une très jolie femme. Le propriétaire lui-même, il loge chez son gendre, Duverrier, un gaillard qui n'a pas 45 ans et qui est déjà conseiller à la cour d'appel. Joli, hein? Ah. Ici, c'est une jeune femme d'un très rare mérite. Elle ne reçoit que des prêtres. Elle a de très jolis seins. Encore un étage et un couloir, et nous y sommes. Vous aurez d'excellents voisins. Des gens simples, d'accord, mais d'un très bon niveau. Le père est caissier à la cristallerie de Saint-Joseph. Eh bien voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. La visite est terminée. Vous voilà chez vous. Ah. Ah, autre chose. Je suis obligé de vous dire, pas de femme. Vous avez remarqué le genre de la maison, ça fera un esclandre.
Ouais, mmh. Parfaitement.
Les gens iraient le dire à Monsieur Gour, nous serions compromis l'un et l'autre. Aussi, je vous prie, faites-le pour moi, sinon pour vous. Respectez l'immeuble.
Enfin, ça, c'est ce qui est dit par le règlement implicite, parce que la façade souvent dissimule d'autres choses. Peau bouille, d'ailleurs, puisqu'on parle vocabulaire, Daniel Voldman, peau bouille, c'est...
C'est le ragoût.
Ce qui sent pas en fait très bon. On lira dans la suite de Peau Bouille les aventures qui ne sont pas toujours extraordinairement vertueuses des habitants de l'immeuble. Mais l'important, c'est que le propriétaire puisse se présenter comme un autocrate, jusqu'à dire pas de femme, alors qu'il fait ménage à trois, lui, peu importe.
Et puis surtout que on vient d'entendre, il y a un des appartements qui est loué à une femme, si j'ai bien entendu.
Oui, une femme
donc
seule.
Une femme seule. C'est pire, c'est très dangereux. Oui. Les propriétaires pensent qu'ils ont tous les droits. En tout cas, ils ont les droits de percevoir leur loyer. Ils ont les droits de demander aux locataires de faire un certain nombre, ou plutôt de ne pas faire un certain nombre de choses, comme pas de femme, souvent aussi pas d'enfants. Parce que les enfants, ça fait du bruit, ça casse les choses, c'est
ou
pas bien.
Ou alors pas de gens qui travaillent, parce que les gens salariés, c'est pas très sûr, vaut mieux un rentier. Ça arrive.
Ça arrive. Mais en même temps, si les gens ne travaillent pas, et ils ne gagnent pas d'argent, et donc ils ne payent pas leur loyer. Donc c'est ambivalent.
Alors vous avez tiré des oubliettes une pièce qui a été représentée en 1852 au théâtre du Palais Royal, qui s'intitule « Habitez donc votre immeuble », où le jeune monsieur Durocher, chez Peau Bouille, c'est monsieur Duverrier, décide d'habiter l'immeuble dont il est le propriétaire.
Comme du reste dans Peau Bouille qu'on vient d'entendre, un certain nombre de propriétaires de ces immeubles de rapport se réservaient un appartement. Ce qui existe encore maintenant, hein, des architectes qui construisent un immeuble et qui se gardent le dernier étage avec terrasse. Donc ce monsieur Durocher est très content parce que c'est le jour du terme, il va encaisser ses loyers. Donc il est très content, il va s'enrichir, il n'a pas de chance parce que ses locataires soit ne sont pas solvables, ils viennent dire qu'ils n'ont pas d'argent pour payer, donc ils demandent un délai. Il y en a un qui est pas content parce qu'il est dérangé par la fumée du cigare de son voisin.
Alors il dit, je paye pas le terme.
Il dit, je vais aller devant la justice de paix, cette fameuse justice de paix, pour vous assigner, vous, mon propriétaire, pour que vous fassiez quelque chose contre ce voisin. Il y en a un autre qui est pas content parce que ils font du bruit. Il y en a encore un autre qui est pas content parce que le propriétaire n'a pas fait les réparations.
Je vous arrête sur le mot terme, qui est un peu oublié maintenant.
Terme, c'est le moment où on paye le loyer. Et le terme, en général, se faisait jusqu'à fort récemment, tous les 3 mois. Donc, on paye de 3 mois en 3 mois.
Clovis est un graveur. Il a la main un peu abîmée pour travailler. Alors, il va voir sa ravissante propriétaire.
Madame, c'est le monsieur du 5e.
Entrez, monsieur. Eh bien, votre cheminée fume, vos gouttières sont bouchées.
Madame, je dois vous faire une confession navrante.
Navrante?
Je suis sans le sou.
Ah, et nous sommes au 15 juillet. Je crois comprendre de quoi il s'agit.
Je rends hommage à votre perspicacité. Le défaut d'argent, vous le savez, amène souvent une situation tendue entre propriétaire et locataire.
Indubitablement.
Eh bien, j'ai découvert un moyen qui devrait, en principe, supprimer cet inconvénient. Il suffit que vous m'accordiez un délai.
Malheureusement, j'ai confié le soin de mes intérêts à M. Gravoiseau.
J'ai déjà vu M. Gravoiseau. Il m'a donné 2 heures. Avouez qu'il est difficile de faire fortune en si peu de temps.
Monsieur, je ne puis aller contre la décision d'une personne qui a toute ma confiance. Ce que M. Gravoiseau fait est bien fait et... Et il me reste donc à souhaiter que vous parveniez à vous entendre avec lui.
Alors Clovis croyait que son charme pourrait agir sur la ravissante propriétaire, mais s'interpose le corps de M. Gravoiseau, qui est le gérant. Gérant.
Les propriétaires trouvaient que se fatiguer à encaisser les loyers et donc entendre les récriminations de ceux qui vous ne pouvaient pas payer, les plaintes de ceux dont la cheminée était bouchée, qu'il y avait des fuites d'eau, etc., confiaient la perception des loyers, des termes, à des gérants, qu'on appelait soit des gérants, soit des principaux locataires, soit même les concierges.
Ah, les concierges. Justement, là, on était dans Aimé par votre concierge. On avait fait un pas de côté par rapport à Paubouille. Aimé par votre concierge, c'est un roman d'Eugène Chavette de 1878. Je suis heureux de vous l'apprendre.
Oui, merci.
Madame Waldman. Alors, revenons à Paubouille. Alors, vous souvenez, il y a une jeune femme seule, là, dans cet immeuble. Et puis, en bas, il y a dans sa loge le concierge.
Monsieur Gour, vous avez du courrier pour moi,
je vais voir.
Ah là, quel travail, hein. Une maison pareille. Il doit s'en passer des choses derrière les portes.
Ceux qui nous regardent, monsieur Mouret. Et ceux qui ne nous regardent pas, ne nous regardent pas. Tenez, voilà par exemple une chose qui me met hors de moi.
Ah, quoi donc?
Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que les tentes... Excusez-moi, je n'ose pas dire le mot.
Oui, en effet.
L'hypocrite. Elle était toute plate quand elle est arrivée. Vous imaginez notre réaction à M. Duverrier et à moi quand nous nous sommes aperçus de la chose.
Introduire chez les gens, avec une affaire pareille cachée dans le ventre. Au début encore, ça se voyait à peine, mais ça grossit, M. Mouret. Ça grossit.
Elle a l'air souffrante. Elle doit pourtant avoir quelqu'un.
Vous voyez, M. Mouret est de mon avis. Mais là, quelqu'un, c'est clair. Les choses pareilles ne poussent pas toutes seules.
Croiriez-vous, monsieur, depuis 2 mois que je guette, je n'ai pas encore aperçu l'ombre d'un galant.
Ah, c'est donc pour ça qu'on vous trouve toujours en faction.
Eh oui. Faut-il qu'il y ait du vice tout de même.
Ce concierge de Paubouille, c'est un cloporte. Cloporte.
Cloporte. C'est celui qui clôt la porte... ou qui ferme la porte, ou qui ouvre la porte. C'est l'origine stricte. Mais, comme le concierge, c'était celui qui souvent encaissait les loyers, empêchait d'entrer ou de sortir, ça a été transformé, dans le courant du 19e siècle, en cette bestiole noire et pas très sympathique, le cloporte.
Il faut dire que les propriétaires logent les concierges dans des conditions assez humides et sombres.
humide et sombre. Les concierges ne sont pas des gens riches, bien portants, à la fête. Ils sont des mal logés, comme
ce sont les premiers mal logés.
C'est parmi les mal logés. Ils sont dans une soupente. Souvent, il y a que la porte, il n'y a pas de fenêtre, et ils sont coincés entre le propriétaire qui leur demande de donner l'argent du loyer et les locataires qui viennent se plaindre de ce qui ne va pas dans l'immeuble.
Du nom d'un héros de Jeune Sud des Mystères de Paris, on appelle aussi le concierge le Pipelet, il tient le cordon. Alors ça, on a complètement oublié. Le cordon qui se généralise sous le Second Empire et qui ne va disparaître qu'après la Deuxième Guerre mondiale.
Alors le cordon, ça peut être plusieurs choses. C'est un peu comme le cloporte, c'est pas très clair la définition. Ça peut être tout simplement le cordon de la sonnette qu'on sonne quand on arrive après la fermeture de la porte, le cloporte, c'est-à-dire à 20h ou 22h, ça dépend des immeubles. Et donc on actionne le cordon.
Comment on fait quand on arrive à 3h du matin ?
Eh bien, on réveille le concierge, il n'est pas du tout content.
Et il vous fait une réputation d'enfer.
Absolument.
Vous n'avez pas donné les autres sens de cordon, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de dire que le concierge complice du propriétaire est l'allié de la force sociale que le propriétaire représente. Parce que vous montrez qu'il y a les marchands de biens, les entrepreneurs de bâtiments qui deviennent des forces sociales et que les propriétaires s'organisent, journaux, bulletins, associations. Vous racontez un congrès extraordinaire, 1893, l'Union des chambres syndicales de la propriété. Propriété bâtie, vous vous souvenez ?
Oui, bien sûr, je me souviens.
L'histoire des toilettes.
Les propriétaires s'organisent à partir du début de la Troisième République, parce qu'ils ont eu très très peur pendant la Commune qu'on leur confisque la propriété. La propriété, c'est le vol, disait Proudhon. Et donc, ils s'organisent après la défaite de la Commune, parce qu'ils trouvent que vraiment, les locataires sont insupportables. Preuve de ce mauvais vouloir des locataires, à part ne pas payer, la propriété bâtie, donc cette association de défense des propriétaires, a mesuré combien il fallait de litres d'eau pour la chasse d'eau.
Et en 93, c'est 6 litres.
Et ils trouvent que les propriétaires en utilisent beaucoup plus. Donc c'est un manque à gagner.
15 litres par jour, alors que ça devrait être 6 litres. Acclamation de l'Assemblée des propriétaires qui peuvent tenir la dragée haute, parce que c'est une constante de l'histoire française, la crise du logement est telle que quand un appartement se libère, eh bien une foule vient l'assaillir pour le visiter, assiégeant la propriétaire dans La Poule Noire. C'est une opérette de Manuel Rosenthal. On reconnaîtra dans le rôle de Constance, la propriétaire, la regrettée Denise Duval, qui vient de disparaître. Et puis, les gens chantent, nous cherchons un appartement, nous cherchons un logement, mais ce quartier, ça nous va parfaitement, c'est exactement ce qu'il nous faut.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Au son des chœurs de l'Opéra Comique de Paris, nous retrouvons Daniel Voldman pour notre thème d'aujourd'hui. Locataires et propriétaires, c'est le titre de votre dernier livre aux éditions Payot. Les locataires, dites-vous, se sont tus longtemps, comme si en France, les aspirations à une vie meilleure ne se focalisaient pas, au moins pendant le premier 19e siècle, sur le logement.
En fait, les associations de défense des classes populaires, en gros les syndicats ou les partis politiques, mais surtout les syndicats, pensaient qu'il suffisait d'être mieux payé, donc de gagner un peu plus d'argent pour pouvoir se loger. Donc le logement dépendait en fait des conditions de travail. Et les revendications ouvrières, les revendications populaires, se sont très longtemps focalisées sur les conditions de travail, sur la rémunération, sur le salaire, beaucoup plus que sur le logement, comme si être mal logé, c'était finalement inhérent à la condition ouvrière, comme si c'était une fatalité, et qu'il suffirait que dans un monde meilleur, les ouvriers gagnent mieux leur vie pour que ce problème soit réglé.
Ce sont les enquêteurs, les bourgeois, les médecins libéraux, les socialistes,
les réformateurs,
les enquêtes sociales qui, au nom de la santé publique, insistent sur les risques des taudis, des caves de Lille et des greniers et des galetas insalubres. Les premières campagnes, on les trouve chez les anarchistes, les premières campagnes en faveur des locataires, puis chez les socialistes. Il y a dans l'Humanité, qui était à l'époque un journal socialiste, on est en 1911, la campagne contre Monsieur Vautour en caisse, puis les communistes.
Oui, le Monsieur Vautour, c'est le propriétaire qui est rapace, acharné à encaisser les loyers sur le dos des pauvres locataires qui n'ont pas d'argent pour payer, comme on l'a vu dans les extraits.
On n'a pas fini de le voir, parce qu'on va en entendre un autre. Un extrait d'un téléfilm où l'huissier menace de l'usage de la force publique, un locataire que pas vraiment un ouvrier, qui est un petit bourgeois, disons, dilettante.
Dites donc, vous avez eu 3 lettres recommandées, vous n'êtes même pas allé chercher. Hein.
Ah, ça que voulez-vous, c'est un principe chez moi. Je ne vais jamais chercher les lettres recommandées.
Et les avis d'expulsion que vous avez moi-même envoyé et auxquels vous n'avez pas répondu,
C'est que je ne connaissais pas, cher monsieur l'huissier.
Du courage, monsieur, dans mon métier, il en faut. Une famille de 8 enfants que j'ai mis sur le pavé avant.
Ça vous fait rien.
Ça me fait rien. Hein? Ça me fait rien. Ne dites pas ça, monsieur, j'en avais les larmes aux yeux. Il y en avait un avec une petite cage à oiseaux, il y en avait un autre avec un petit bocal avec un petit poisson rouge. Vous savez ce que j'ai fait pour ces gens-là? Hein? Vous savez? Je leur ai souhaité bonne chance. Voilà ce que j'ai fait. Tandis que vous, je vous envie presque. Vous allez changer de maison, vous allez changer de quartier, vous allez changer d'amis. C'est presque l'aventure.
Évidemment, vous changez d'appartement tous les 8 jours.
Oui, il y a 35 ans que j'habite au même endroit.
Évidemment.
Quelle est votre réponse, monsieur Suger?
Nous ne sortirons d'ici...
Que par la force des baïonnettes!
Le téléfilm « Mésentente cordiale » de Jean-Charles Lagneau. Nous ne sortirons d'ici que par la force des baïonnettes. Les militants locataires, ils organisent quelques opérations qui ont laissé des traces, notamment celle d'un nommé Cochon.
Georges Cochon, qui était un militant anarchiste et qui a pris la tête d'un mouvement de défense de locataires. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait des gens menacés d'expulsion, comme ce monsieur qu'on vient de voir, ils rameutaient quelques militants, ils allaient avec des casseroles, ils faisaient tout un bruit, et ils essayaient de s'opposer à l'arrivée des forces de l'ordre qui devaient mettre dehors ces gens qui n'avaient pas payé leur loyer ou qui, pour une raison ou pour une autre, étaient expulsés.
C'était les compagnons de la cloche de bois.
Les compagnons de la cloche de bois. La cloche de bois, c'est le fait de déménager avant de payer son loyer.
Votre livre, outre qu'il nous apprend beaucoup de vocabulaire, insiste sur l'arbitrage de plus en plus présent de l'État. 1850, une loi qui restera inappliquée mais qui cherchait à empêcher de louer des locaux déclarés insalubres. 1883, l'inspection des garnis. Et puis 1912, les premières sociétés d'habitation à bon marché où l'État investit en même temps que des philanthropes, des mécènes, des patrons sociaux. Mais ce que vous m'avez appris, moi, c'est l'importance de l'intervention de l'État dans l'organisation de moratoires des loyers à chaque guerre. 1870, 1914.
1939.
On commence rapidement par 70.
Alors 70, le Second Empire vient d'être mis à bas après la défaite de l'empereur à Sedan. La République est proclamée, mais la France est envahie. La moitié presque du pays est occupée par les troupes allemandes. Donc il faut se défendre, donc il faut déclarer la mobilisation et il faut envoyer les Français se battre. Or, la guerre a été déclarée par l'Empire et les futurs soldats se disent qu'est-ce qu'on va aller faire une guerre qui est pas la nôtre. Donc le nouveau gouvernement de la République décide pour inciter, pour aider les soldats à aller défendre la patrie, décide que ceux qui sont les moins riches, les plus pauvres des locataires, pourront
ne pas payer leur loyer.
Enfin, c'est pas retarder ne pas leur payer, loyer. Retarder le paiement du loyer.
1914, même chose, et ça dure beaucoup plus longtemps, jusqu'en 1918. Qu'est-ce qu'on va exiger quand même des épouses, des veuves, des orphelins, le paiement des loyers? Et puis alors, vous racontez qu'après 1918, ça a provoqué, quand une loi essaie de stabiliser tout ça, des imbroglios juridiques, des procès devant les plaideurs, les locataires anciens combattants contre les propriétaires anciens combattants. Et ça ne va se résoudre que par la loi de 1948, la fameuse loi de 1948, qui a pour fonction de régler ces affaires pendantes depuis des dizaines d'années, en tentant aussi un nouvel équilibre.
Oui, depuis en fait 1914, parce que en fait, quand on avait déclaré ce fameux moratoire, très bien pour les locataires, mais les propriétaires qui vivaient au moins une partie d'entre eux du revenu de leur loyer, qu'est-ce qu'on allait faire? Donc il y a eu, comme vous dites, des imbroglios, et l'État a essayé d'indemniser les propriétaires. Encore fallait-il calculer l'indemnisation, c'était très compliqué. En tout cas, ce qui était compliqué, d'indemniser les locataires les propriétaires pour les calmer, mais revenir sur cette affaire d'étalement des loyers, ça risquait de provoquer des mouvements sociaux graves. Donc, d'année en année, on a temporisé.
Et donc, en 1948, on essaye de régler toutes ces affaires pendantes. Le nouvel équilibre, ça consiste quand même à augmenter les loyers, souvent
de façon importante,
de 100%. Et puis, on termine sur le style opéra comique. Ça a été notre constante quand on a suivi pas à pas votre livre, Daniel Von Mann. Et ben, 50 ans plus tard, il y a encore des procès autour de l'application par les descendants des bénéficiaires de la fameuse loi de 48. C'est le film Grand Appartement de Pascal Thomas.
Votre avocat n'est pas là ?
Madame la Présidente, j'assure moi-même notre défense.
C'est votre droit. Mais je vois que vous vous présentez seule à nouveau. Je m'étonne que Madame Ardilouze, la locataire en titre de votre appartement, ne soit pas présente.
C'est la grand-mère fantôme.
C'est elle et non vous qui êtes titulaire du bail sous la loi de 1948.
Madame Ardilouze relève d'une maladie sérieuse. Elle est actuellement en convalescence sur le conseil de ses médecins.
Ça fait 50 ans que Madame Ardilouze agonise, Madame la Présidente.
Pourquoi Madame Falinga va-t-elle récupérer cet appartement? Ce n'est pas pour se loger ou loger sa famille. Non, c'est pour le relouer un taux prohibitif.
Un taux d'aujourd'hui?
Justement, qu'est-ce qu'un loyer d'aujourd'hui? C'est un loyer exagérément élevé qui répond à la spéculation immobilière. C'est très grave pour tout le monde. C'est très grave pour Paris, Madame la Présidente.
Nous nous écartons du débat. Est-ce que les loyers de cet appartement ont toujours été régulièrement payés?
Toujours, Madame la Présidente. Mais aurions-nous pu le faire si Madame Falinguer avait quintuplé ses loyers comme elle le souhaite?
Alors, si on voulait parler de l'époque contemporaine, mais vous le faites dans une dernière partie, votre livre est paru chez Payot, on parlerait des effets pervers de la loi de 48, on parlerait des HLM, on parlerait de la copropriété. Tiens, la copropriété, ça naît quand ?
La copropriété, ça a toujours existé, mais ça n'a été réglementé qu'une première fois en 1938, où on a obligé les habitants d'un même immeuble qui possédaient des morceaux de cet immeuble à se grouper en un syndicat. Ça leur a pas du tout plu, parce qu'il fallait s'entendre avec les voisins. Et ça a été réglementé de façon plus précise en 1965. c'est relativement récent. Et là, c'est la gestion de l'immeuble est confiée à un syndic. Et ça pose des tas de problèmes. Tous les copropriétaires, je pense, le savent.
Un jour, on fera avec vous une histoire de la copropriété. Je vous remercie. Et je rappelle donc que votre livre est publié aux éditions Payot. L'émission était préparée par Franck Olivard, avec à la technique Serge Viguier. Et à la réalisation, Jacques Cigale.